Chers auditeurs de La Rage Dedans, aujourd'hui je reçois Benoît. Benoît Muracchiol, bonjour.
Bonjour, Mariama.
Alors, la lutte contre le génocide, la mobilisation continue. Donc on va évoquer tout ceci dans notre émission. On va revenir sur la procédure Bayon de Thalès contre Disclose, qui a révélé beaucoup d'exportations d'armes faites par cette multinationale en direction d'Israël.
Oui. Alors, on se rend compte que petit à petit, avec les actions des ONG, et notamment d'Azer, hein, de notre Action Sécurité Éthique Républicaine, les entreprises commencent un petit peu à se poser des questions sur leur image, parce que c'est 80% de l'entreprise.
Tout à fait.
Et que, donc, elles se sentent en danger et elles commencent à mettre des pressions de façon à essayer d'étouffer dans l'œuf toute réaction de la part de la société civile. Donc, pour Disclose, Disclose qui révèle effectivement l'implication de Thalès dans le fait de la fourniture de part du matériel militaire
à Sermat.
De Sermat.
Elbit
Systems.
Voilà.
Donc, entreprise de l'armement israélienne. Elle se rend compte maintenant que il y a une prise de conscience qui s'élargit de plus en plus sur la nature des crimes commis par l'armée israélienne, donc à Gaza, qui est qualifié, de mon point de vue, assez justement de génocide, hein, notamment par Amnesty International, par Albanese,
la rapporteuse
des Nations Unies sur les territoires occupés, par B'Tselem, l'ONG israélienne, et puis Human Rights Watch. Donc, aujourd'hui, les gouvernements et les industries de l'armement ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas.
Non.
Et alors, il s'agit donc de ces crimes de génocide, des crimes de génocide pour Gaza, mais il y a également les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, dans les territoires occupés.
Mmh. Hein, qui continue. Malgré la trêve qui a été signée.
Okay, absolument. Et que ce soit dans les territoires occupés ou à Gaza, depuis la trêve, ces crimes continuent.
D'accord. Alors, Disclose communique depuis le 11 décembre sur cette procédure Bayon. Disclose lance un appel de fond, Azer aussi. Donc, on peut...
Alors, nous, on n'est pas dans cette procédure Bayon. Hein. On fait un appel de fonds parce qu'on a besoin de fonctionner, bien sûr, mais on n'est pas dans cette...
Non. Disclose, c'est le disclose.org, ouais, pour le site, mm-hmm, et pour faire un appel de fonds, pour répondre à l'appel de fonds pour qu'il puisse continuer à fonctionner.
Oui.
Azer, il faudrait que tu redonnes l'adresse du site pour qu'on vous fasse des dons.
Alors, c'est azer.asso.org.
Parfait. Alors, Disclose, donc, je disais qu'on communique depuis le 11 décembre sur cette procédure Bayon. Sermat, le gouvernement français, 4 jours après la plainte, donc 4 jours après les révélations de Disclose, il a suspendu les transferts d'armes de Sermat à Elbil. Donc ça prouve que, quelque part, l'information, quand elle est dite sur la place publique, l'entreprise recule. Donc,
Là, c'est le gouvernement qui a priori, a reculé. Donc, ce qui est très, très important. La difficulté qu'on a, c'est maintenant de savoir si, d'une part, Sermat applique véritablement les directives du gouvernement.
Oui.
Et Sermat, ça ne concerne pas directement du matériel, seulement du matériel de guerre. Ça peut concerner aussi des biens à double usage.
Tout à fait.
Les biens à double usage, rappelle rapidement, par exemple, ça peut être des écrous, des potentiomètres, etc., qui peuvent servir pour le civil ou le militaire.
Bien. Alors, le 23 octobre 2025, sur ton site de l'Azer, il y avait un communiqué sur les ports et les aéroports contre le génocide. On apprenait que du personnel des aéroports et des ports français se mettaient en branle contre le génocide. Est-ce que tu peux expliquer cette manifestation et cette prise de conscience?
Alors, oui, bien sûr. Alors, donc, les camarades de la CGT, de FO, de Sud, qui ont fait cette déclaration commune. Et c'est un moment extraordinaire parce que de toute façon, pour tout transfert, alors quelquefois, quand on parle de transfert d'armes, ça peut être une exportation, ça peut être une importation, ça peut être un transit, un transbordement. Un transbordement, ça veut dire que le matériel est déchargé en France et rechargé sur un autre
bateau,
ou sur un autre avion. Et puis, le courtage. Donc là, il s'est agi il y a une prise de conscience extraordinaire de la part des syndicats et d'autres, peut-être même, je pense, des dockers ou des portuaires ou des gens qui travaillent dans les aéroports qui ne sont pas forcément syndiqués, pour ne pas être complices de ce génocide ou des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Et c'est d'abord, je trouve que c'est très fort de voir une société comme ça qui prend cette responsabilité-là.
Tout à fait.
C'est une grande solidarité, bien sûr, avec le peuple palestinien. De mon point de vue, c'est une grande solidarité aussi devant le peuple israélien, qui, pour une partie, s'est complètement perdu dans cette guerre. Et je citerai Omer Bartov, qui est un historien israélo-états-unien, qui est un grand spécialiste de la Shoah, et qui, dans un article, disait qu'il avait rencontré la même typologie dans la construction des familles israéliennes vis-à-vis des Palestiniens que ce qu'il avait vu dans la société nazie vis-à-vis des Juifs. Et donc, il trouvait ça absolument dévastateur. Donc, il y a quelque chose qu'il faut sauver là-dedans. Il y a quelque chose qui... Il ne s'agit pas d'une destruction contre une autre destruction. Il s'agit de sortir tout le monde de cette haine et de cette volonté de détruire, de destruction de l'autre.
D'accord. Alors, on apprenait par ton communiqué du 13 novembre 2025 que 38 sociétés étaient autorisées par Macron à venir exposer leur matériel à Millipol. Qu'est-ce que c'est que Millipol, pour ceux qui ne le connaîtraient pas?
Alors, Millipol, c'est un salon qui a lieu tous les deux ans en France. Il a lieu aussi au Qatar. Enfin, je crois que même qu'il y a un Millipol indien. Mais en tout cas, en France, il a lieu tous les deux ans. Et c'est le salon militaire-police. Donc, tous les matériels de militaire-police sont
exposés.
Pas tous, parce qu'il y a une réglementation européenne qui limite ce type de matériel au matériel qui interdit les matériels qui pourraient être utilisés à des fins de torture. Plusieurs fois, nous sommes intervenus pour rappeler aux gens du salon leurs obligations. Et dans ces entreprises qui viennent, il y a bien entendu les entreprises israéliennes qui, pendant des décennies, ont utilisé...
à bouffer des haubans et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus puits se lèvent en riant dans un bruit de tempête referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors d'un geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam. d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Tes cratères
aux vieilles lunes,
sage femme de l'univers,
s'il en est une,
tu règnes sur le cours des mers
et sur Neptune.
Que caches-tu dans tes arrières?
Une fortune.
Méfie-toi de ceux qui plantèrent
dedans tes mines
leurs orités de ver de terre
inopportune.
De ces gros pieds buveurs de bière
sans gêne aucune.
Que suis que dit con comme la lune
aille en enfer.
Et si à chacun sa chacune,
c'est toi que je préfère.
J'aime à la nuit et sans costume
de bain de mer
nager dans tes reflets d'écume,
dans ta lumière,
comme si je volais dans les plumes
d'un être cher.
Fait d'une féerie de lagunes,
de cirques d'hiver.
Brûlant d'espoir de boire tes brumes
qui désaltère
le nectar du vin que l'on hume.
Quand vient brumaire,
mon ami déambule en fune,
nombule délétère.
Que le champ libre comme l'air d'une
rose éphémère
en volute dansant qui fume
dans les airs.
À toi, muse entre toutes, ô lune, te soit offert. Chacun sa chacune, c'est toi que je préfère.
Mini de Vannes et la Zonzon qui arrosait chaque soir sa motte au cognac et au Marsala, au cognac et au Marsala. Nous avons eu Marie Ficelle qui revenait de Douala, qui revenait de Douala et qui ch'touillait le colonel. De jolies putes vraiment et un vraiment bien beau bordel. Même Kadakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Lulu mange tout, Nana Frisson et Miss Poil Poil, celle qui rendait les hommes fous quand elle dansait avec ses voiles, qui cachait même pas son père ni ses six poils de salsifis. Nous avons eu Nini Donfleur, nous avons eu Nini Donfleur, et Rita, et Rita, et Rita qui pissait au lit. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel. Même Kadaka, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. Nous avons eu Bébé Fortiche qui était tatoué de bas en haut. Elle avait des cœurs sur les miches et les noms de nos généraux calligraphiés sur sa praline, calligraphiés sur sa praline. Nous avons eu Mamselle Monsieur, un ancien paradis d'Auchine, un ancien paradis d'Auchine qui avait vraiment pas froid aux yeux. De jolies putes vraiment et un vraiment bien beau bordel. Même que Dakar, ça je peux le dire, il n'en avait pas de pareil, il n'en avait pas de pareil. il n'en avait pas de pareil. De jolies putes vraiment, et un vraiment bien beau bordel, même qu'à Dakar, il n'en avait pas de pareil. Non, il n'en avait pas.
Ciao baby, bye mon amour. Quelle vie de chien toujours en cours. Embrasse-moi encore une fois. Rien qu'une fois, vite une fois. Ciao baby, bye mon amour. On s'en va comme ça tous les jours. Bon pied, bon train, de bon matin. Pour du bon pain, c'est du bon pain. C'est la vie, la grande vie qu'on mène, c'est la vie. Ah, je t'aime et tu m'aimes et tout ça. Parce que sur les lèvres d'une fille qui sentait le lilas, on a pris un baiser à 15 berges, un baiser qui vous est resté là. Ciao baby, bye mon amour. Quel temps de chien sur nos amours. Embrasse-moi encore une fois, comme si c'était la première fois. Ciao baby, bye mon amour. On s'en va comme ça certains jours, en disant qu'on va faire un tour. Et puis un jour c'est pour toujours. On s'en va, sans regarder derrière soi, on s'en va. Chercher je ne sais quoi et tout ça. Parce que sur les lèvres d'un garçon que tu ne connaissais pas, tu as cru retrouver tes 15 berges pour un pauvre bouquet de lilas. Ciao baby, bye mon amour. Quel temps fait-il sur tes amours. Ici c'est toujours la même chose. Les amis te disent bien des choses. Ciao baby, bye mon amour. Je voudrais te dire quelque chose. Pour moi maintenant tout va bien. Tout va très bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus rien qu'un souvenir, trois fois rien. Qui ressemble à mourir à tout ça. Qu'on garde sur les lèvres à la fille qui sentait le lilas au baiser qu'on a pris sur ses lèvres, ce baiser qui sentait le
fin juillet, c'est les congés payés, l'usine va fermer, c'est les vacances. Dans ma doge qu'on n'a pas payé, rush un moteur presque neuf qui est gonflé à la touche, puis dans la transe. Y'a des blaires avec des Land Rover qui se donnent au désir, qui nous scotchent derrière, on s'en balance. J'en ai marre, voilà monter l'imar, débouche le pinard et roule le pétard, vive la France. 30 à l'heure, c'est vraiment le bonheur, on prend le moteur qui ronronne. N'aie pas peur, j'ai pas d'enjoliveur ni de rétroviseur, écoute-moi tous ces cons qui klaxonnent. On s'arrache sur le plateau 1000 vaches pour faire pousser du hache pour vendre des RH, on soit du fric. Au blaireau branché sur la techno console de Nintendo entre le Sébasto et République. Au gogo qui se bourre de McDo attire l'arigot qui foule un petit go et la colique. Et au blaire qui s'écoute au Drucker avec leur mémère en gavant leur hamster anorexique. Sur les champs y'a des bouffons puis on sarco et des beaux pleins d'hormones. N'aie pas peur, en roulade quand à l'heure ça fera pas tonner le beurre. Écoute les Pokémon qui klaxonnent. Les toits, y'a des cochons sur moi, de longue et de foie pour faire du cerveau pour dyslexique. Y'a des beaux bourrés d'antibio sans s'arrêter sans peau pour faire des godivots, c'est bien pratique. Y'a des boules croisées, y'a des pitbulls importés de cavlo clonés dans des ampoules hyperboliques. Dans les champs, y'a des lapins mutants qui miaulent le temps volant dans les radis géants, c'est transgénique. 30 à l'heure, c'est vraiment le bonheur, j'ai mis du super aux hormones. La nature défile à toute allure, on va droit dans le mur. J'entends déjà les brillants qui klaxonnent. Dis poupée, voilà la fin juillet, c'est les congés payés, l'usine va fermer, c'est les vacances. Dans ma doge qu'on n'a pas payé, roche un moteur presque neuf et gonflé à la touche, je suis dans la transe. Y'a des blaires avec des londres verts qui se donnent du zerk, nous scotchent derrière, on s'en balance. J'en ai marre, voilà mon télimar, débouche le pinard et roule le pétard. Roule le pétard, oh, roule le pétard, roule le pétard. Oh, c'est fort. Vive la France.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était toc, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar, car encore Igor y dort, mépris de son oreille. Merveille, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocu qu'attends-tu? Quitte-toi tes cocu, tac-tac-tac, quitté et quitter ton quartier. Tacati t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, tacati t'a quitté. Hôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. T'attends t'attaquer contre ta cocotée, quatre écus tout compté, et quitte ton quartier. Tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catita qui n'est un coquère coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup, tic-tac, tic. Oh, matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
On se rend compte que petit à petit, avec les actions des ONG, et notamment d'AZER, hein, de notre Action Sécurité Éthique Républicaine, les entreprises commencent un petit peu à se poser des questions sur leur image, parce que c'est 80% de l'entreprise.
Tout à fait.
Et que donc elles se sentent en danger et elles commencent à mettre des pressions de façon à essayer d'étouffer dans l'œuf toute réaction de la part de la société civile. Donc pour Disclose, Disclose qui révèle effectivement l'implication de Thalès dans le fait de la fourniture de part du matériel militaire
à Sermat.
De Sermat
Elbil.
Elbit Systèmes,
voilà.
Donc entreprise de l'armement israélienne. Elle se rend compte maintenant que il y a une prise de conscience qui s'élargit de plus en plus sur la nature des crimes commis par l'armée israélienne, donc à Gaza, qui est qualifié, de mon point de vue, assez justement de génocide, hein, notamment par Amnesty International, par Albanese,
la
rapporteuse des Nations Unies sur les territoires occupés, par B'Tselem, l'ONG israélienne, et puis Human Rights Watch. Donc, aujourd'hui, les gouvernements et les industries de l'armement ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas.
Non.
Et alors, il s'agit donc de ces crimes de génocide, des crimes de génocide pour Gaza, mais il y a également les crimes de guerre, crimes contre l'humanité dans les territoires occupés.
Mmh. Hein, qui continuent. Malgré la trêve qui a été signée.
Okay, absolument. Et que ce soit dans les territoires occupés ou à Gaza, depuis la trêve, ces crimes continuent.
D'accord. Alors, Disclose communique depuis le 11 décembre sur cette procédure Bayon. Disclose lance un appel de fond, AZER aussi. Donc, on peut...
Alors, nous, on n'est pas dans cette procédure Bayon. Hein. On fait un appel de fond parce qu'on a besoin de fonctionner, bien sûr, mais on n'est pas dans cette...
Non. Disclose... C'est le disclose.org, ouais, pour le site, mm-hmm, et pour faire un appel de fonds, pour répondre à l'appel de fonds pour qu'il puisse continuer à fonctionner.
Oui.
AZER, il faudrait que tu redonnes l'adresse du site pour qu'on vous fasse des dons.
Alors c'est AZER, AZER-ASSO, A2SO.org.
Parfait. Alors disclose, donc, je disais qu'on communique depuis le 11 décembre sur cette procédure Bayon. Sermat. Le gouvernement français, 4 jours après la plainte, donc 4 jours après les révélations de Disclose, il a suspendu les transferts d'armes de Sermat à Elbil. Donc ça prouve que, quelque part, l'information, quand elle est dite sur la place publique, l'entreprise recule. Donc,
là, c'est le gouvernement qui a priori, a reculé. Donc, ce qui est très, très important. La difficulté qu'on a, c'est maintenant de savoir si, d'une part, Sermat applique véritablement les directives du gouvernement.
Oui.
Et Sermat, ça ne concerne pas directement du matériel, seulement du matériel de guerre. Ça peut concerner aussi des biens à double usage.
Tout à fait.
Les biens à double usage, rappelle rapidement, sont par exemple, ça peut être des écrous, des potentiomètres, etc., qui peuvent servir pour le civil ou le militaire.
Bien. Alors, le 23 octobre 2025, sur ton site de l'AZER, il y avait un communiqué sur les ports et les aéroports contre le génocide. On apprenait que du personnel des aéroports et des ports français se mettaient en branle contre le génocide. Est-ce que tu peux expliquer cette manifestation et cette prise de conscience?
Alors, oui, bien sûr. Alors, donc, les camarades de la CGT, de FO, de Sud, qui ont fait cette déclaration commune. Et c'est un moment extraordinaire, parce que de toute façon, pour tout transfert, alors quelquefois, quand on parle de transfert d'armes, ça peut être une exportation, ça peut être une importation, mm-hmm, ça peut être un transit, un transbordement. Un transbordement, ça veut dire que le matériel est déchargé en France et rechargé sur un autre
bateau,
ou sur un autre avion. Et puis, le courtage. Hein. Donc là, il s'est agi il y a une prise de conscience extraordinaire de la part des syndicats et d'autres, peut-être même, je pense, des dockers ou des portuaires ou des gens qui travaillent dans les aéroports qui ne sont pas forcément syndiqués, pour ne pas être complices de ce génocide ou des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Et c'est d'abord, je trouve que c'est très fort de voir une société comme ça qui prend cette responsabilité-là.
Tout à fait.
C'est une grande solidarité, bien sûr, avec le peuple palestinien. De mon point de vue, c'est une grande solidarité aussi devant le peuple israélien qui, pour une partie, s'est complètement perdu dans cette guerre. Et je citerai Omer Bartov, qui est un historien israélo-états-unien, qui est un grand spécialiste de la Shoah, et qui, dans un article, disait qu'il avait rencontré la même typologie dans la construction des familles israéliennes vis-à-vis des Palestiniens que ce qu'il avait vu dans la société nazie vis-à-vis des Juifs. Et donc, il trouvait ça absolument dévastateur. Donc, il y a quelque chose qu'il faut sauver là-dedans. Il y a quelque chose qui... Il ne s'agit pas d'une destruction contre une autre destruction. Il s'agit de sortir tout le monde de cette haine et de cette volonté de détruire, de destruction de l'autre.
D'accord. Alors, on apprenait par ton communiqué du 13 novembre 2025 que 38 sociétés étaient autorisées par Macron à venir exposer leur matériel à Millipol. Qu'est-ce que c'est que Millipol, pour ceux qui ne le connaîtraient pas?
Alors, Millipol, c'est un salon qui a lieu tous les deux ans en France. Il a lieu aussi au Qatar. Enfin, je crois même qu'il y a un Millipol indien. Mais en tout cas, en France, il a lieu tous les deux ans. Et c'est le salon militaire-police. Donc, tous les matériels de militaire-police sont
exposés,
pas tous, parce que il y a une réglementation européenne qui limite ce type de matériel au matériel qui interdit les matériels qui pourraient être utilisés à des fins de torture. Plusieurs fois, nous sommes intervenus pour rappeler aux gens du salon leurs obligations. Et dans ces entreprises qui viennent, il y a bien entendu les entreprises israéliennes qui, pendant des décennies, ont utilisé les territoires occupés comme des lieux d'expérimentation de matériel de sécurité, etc. Donc, il nous semblait logique que ces entreprises de sécurité, de police et militaires soient interdites. Au salon Millipol. Bon, vous connaissez tous un petit peu la nature de notre cher président de la République, qui est un petit peu
obtus,
ou perdu. Je pense surtout qu'il est perdu. Donc, il peut dire une chose un jour et le contraire le lendemain. Et donc, il fait cette déclaration-là. Cette déclaration-là est quand même assez grave parce que il l'a faite aussi pour le Bourget.
Oui.
Donc, c'était en 2024, Et là, il y a une responsabilité pénale qui est engagée de la part du président de la République parce que il a connaissance à la fois par les Nations Unies, par la Cour internationale de justice, même si la Cour internationale de justice parle de risque plausible de génocide. Mais les Nations Unies, donc
Madame Albanese,
parle de génocide à Gaza, donc les organisations internationales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il ne pourra pas dire qu'il n'avait pas connaissance de cette situation. Ça veut dire que, logiquement, s'il y a une logique dans cette justice internationale, bien sûr, mais cette logique, elle peut se construire par la mobilisation des citoyens et des citoyennes, eh bien, le président de la République devra être traduit en justice par la Cour pénale internationale. Bon, à moins qu'il le soit avant, bien sûr, par un tribunal français, mais sinon, il devra l'être par la Cour pénale internationale, parce qu'il a connaissance de ces crimes internationaux et qu'il est maintenant complice de ces crimes.
Voilà. Alors, toujours sur votre part communiqué de presse, parce que vous faites un travail intense, et moi je suis destinataire des communiqués de presse. Sur le 10 décembre, le communiqué de presse signé par BDS, Stop Arming Israel, Nidal, Weapon Watch, explique que 18 tonnes de tubes de canon pour obusier 135 mm...
155, pardon,
j'ai mal retranscrit. De la société, fabriquée par la société Aubert et Duval pour Elbit Systems, sont au Havre et sont en partance pour Haïfa.
Oui. Alors là aussi, c'est vraiment très intéressant. C'est malheureusement un cas d'école. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose également d'extraordinaire, parce qu'il y a une mobilisation. Alors, on parlait des portuaires, des dockers, mais il y a aussi les avocats. Notre avocat, Matteo Bonal, il y a qui, depuis 2017, fait un travail extraordinaire. Et puis, il y a maintenant Jordi, une association d'avocats qui travaille aussi, et qui est présente et qui c'est enthousiasmant de voir cette mobilisation. Et puis, des gens qui vont devant l'usine, qui tractent avec Stop Arming Israël, qui vont tracter, qui vont expliquer, qui vont bloquer, et dans le cadre de ces tubes de canons de Aubert et Duval, ils avaient commencé par bloquer le camion. Et puis, ces renseignements, ces sources de renseignements, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont
des lanceurs d'alerte.
Voilà, absolument. Et qui transmettent les informations qui permettent de faire ce travail-là. Pour les tubes de canon, la justification de la part du gouvernement est encore une justification est-ce qu'elle est incompétente ou mensongère ?
Aujourd'hui,
elle est plutôt qu'elle est mensongère maintenant. Au début, elle était peut-être incompétente, mais comme on a quand même avancé un certain nombre d'arguments, maintenant elle est mensongère, de dire qu'il s'agit de tubes de canon pour une réexportation. Mmh. Or, les engagements internationaux de la France, hein, particulièrement le traité sur le commerce des armes, à aucun moment ne mentionne comme possibilité d'exonération pour un État donner des autorisations d'exportation de matériel de guerre. Il ne parle à aucun moment, il ne parle d'exonération pour une réexportation. L'article 6 dit clairement que si un État, par ses transferts, donc là il s'agit d'une exportation, ce transfert lui-même viole ses engagements internationaux, mm-hmm. que sont le traité sur le commerce des armes, les conventions droits de l'homme, hein, non seulement la Charte des Nations Unies, mais dans la Charte des Nations Unies, il dit les États s'engagent à respecter les droits de l'homme, mais l'article 56 dit qu'ils s'engagent en plus à les faire respecter. Dans le droit international humanitaire, il y a aussi un engagement des États à faire respecter le droit international humanitaire, ce que, visiblement, aujourd'hui, le gouvernement français ne fait pas. Et là également, alors il y a toujours la Cour pénale internationale qui sera saisie un jour ou l'autre de la responsabilité, bon, bien entendu du président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, mais également du Premier ministre et des ministères
concernés.
Ad hoc, hein, c'est-à-dire le ministère des Finances, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères.
Tout à fait.
Donc ces gens-là. Et je dois dire que là, la responsabilité ne sera pas uniquement au niveau des ministres, elle sera également au niveau des fonctionnaires qui ont l'article 40. Qui n'ont pas alerté sur les violations de la loi par une demande des ministères ou d'un directeur de la DGA ou d'une directrice de la DGA. Donc là, on est dans une situation qui n'est pas nouvelle, parce qu'elle s'était déjà posée avec le Yémen. Hein, on avait parlé aujourd'hui du Yémen. Et à l'époque du Yémen, il y avait le ministère des Affaires étrangères avait fait un refus d'exportation de munitions en direction de l'Arabie saoudite,
oui.
Hein, 2016. Et c'était à l'époque, donc, Hollande qui avait fait intervenir. Alors après, lui a dit, non, c'est pas moi, mais c'est l'Élysée qui était intervenu pour que cette exportation se fasse. Donc, aujourd'hui...
Il avait passé outre son ministre des Affaires étrangères.
Le ministre et même le Premier ministre, à l'époque, qui avait arbitré en faveur de ce refus.
Ce fut, tout à fait.
Donc, il y a maintenant, aujourd'hui, quand même eu une conscience un petit peu de ce lien qu'il y avait et qu'a très bien repris une juge des référés suite à un référé Liberté qu'avait déposé Matteo Bonali à notre avocat pour des exportations de matériel de guerre à Cherbourg. Elle reconnaissait, et dans le texte, donc le texte normalement était distribué aux fonctionnaires qui sont chargés de la SIEM, de ces exportations, en disant qu'il y avait bien un lien entre la souffrance du peuple yéménite et les exportations d'armes françaises.
Et ça, c'était extraordinaire que vous l'ayez obtenu.
Oui, oui, mais ça veut dire que les juges... Je pense que les juges commencent à parler entre eux et à prendre conscience, parce que c'est un domaine sur lequel il n'y avait rien avant que nous on intervienne.
Non, en fait, c'est jurisprudence.
Voilà.
D'où notre invitation régulière à l'antenne pour expliquer ce en quoi votre bataille et les avancées. Et là, nous sommes sur plein d'avancées par rapport à l'époque du Yémen.
Voilà, c'est ça. Et ce que nous espérons, c'est que ça continue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vertueux qui se passe. Les juges parlent entre eux, s'interrogent eux-mêmes et leur conscience par rapport à, quand même, à ce qui se passe à Gaza et dans les territoires occupés. Et excellente nouvelle également, c'est l'avis de la CNCDH, de la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme vient d'émettre un avis disant qu'il serait temps pour l'État français de permettre aux juges administratifs de juger de ces questions, de dire aussi qu'il serait temps que dans le civil aussi, que pour le cour criminelle civil, etc., les juges puissent également ester. Et les recommandations de la CNCDH sont très très claires en demandant plus de transparence, c'est-à-dire que pour que la société civile et pour que les juges font partie de la société civile, pour qu'ils sachent, il faut qu'ils aient accès
aux
à l'information.
Pièces. Hein? Aux pièces.
Voilà, exactement. Et donc ça, c'est une demande aussi très très
récurrente
très intéressante.
Alors, ONG.
De la part de notre part, oui, mais de la part de la CNCDH, c'est vraiment très très important de le voir là. Et puis que les juges puissent appliquer les traités que la France a ratifié.
Notamment le TCA, l'article 6 du TCA, qui est violé systématiquement dans cette affaire.
Dans cette affaire, oui.
D'accord. Alors, il faut savoir que le jour où vous faites le communiqué de presse, vous rappelez que le 10 décembre, c'est pas n'importe quel jour, c'est le jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Oui.
Faut vraiment choisir ce jour-là pour violer l'article 6 du traité de commerce des armes.
Oui,
vraiment,
oui.
Il communique bien, Monsieur Macron, c'est bien. Continue.
Alors, cette affaire-là n'est pas terminée, parce que donc le camion est parti au Havre, les dockers, les portuaires du Havre, et notamment CGT, ont été prévenus, donc ils ont dit non, on refuse l'entrée des canons, et le conteneur dans lequel sont ces canons a disparu, à nos yeux en tout cas, pas aux yeux de tout le monde bien sûr. Donc, la société Aubert et Duval, qui a quand même répondu en disant que oui, mais non, vous inquiétez pas, c'est pour une réexportation de matériel de guerre. Elle est en contact, bien sûr, avec Elbi System, et elle va essayer de livrer son matériel. Donc,
c'est clair.
Là aussi, la mobilisation continue. On continue de chercher où est ce conteneur.
Et
il ne
trouver.
Passera pas, voilà, il passera pas en tout cas...
En Israël.
Il passera pas par un port français.
C'est bien. Eh bien, écoutez, on est content.
Oui, c'est remarquable. Là, je suis. On n'a jamais eu cette mobilisation sur la guerre au Yémen. Donc c'est et encore une fois, il y a quelque chose de vertueux dans le sens où petit à petit, plus de gens prennent conscience du drame qui arrive. Donc,
on va en parler dans la deuxième partie, Benoît. On fait une pause et on revient en deuxième partie.
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude maintenant, que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de 100 ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous. Révérence, parler, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant, j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici. Chanteriez en trinquant ensemble à vos santé, qu'il est fou de perdre la vie pour des idées comme ça qui viennent et qui font trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont. Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas. Que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient, c'est de la bouille pour les chats et pour les chiens. Qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemis, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main, mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains. Que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon, ce sont les généraux des petits soldats de plomb. Ainsi chanteriez-vous tous les deux ans suivants Marlboro qui va en guerre au pays des enfants. Oh, vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu. Quand vous rencontrerez mes deux oncles là-bas, offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas. C'est de myosotis fleuri dans mon jardin, un petit forget-me-not pour mon oncle Martin, un petit fergist-my-niche pour mon oncle Gaston, pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Teutons.
Chers auditeurs de La Rage des Dents, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Benoît Muracciol de
Muracciol, Lazer. Muracciol.
Muracciol. Allez, je vais pas écorcher ton nom de Lazer. Pour parler de la mobilisation autour contre le génocide à Gaza et dans les territoires occupés, il y a un outil qui est formidable. Il a été développé par Stop Arming Israël, qui est la carte interactive de toutes les mobilisations et de tous les endroits où il faut se mobiliser en France et ailleurs dans le monde. Il faut aller sur leur site et vous aurez les près de chez vous. Vous saurez parce que les usines d'armement, elles sont partout en France.
Oui. Mmh.
Donc il y a matière à se mobiliser tout autour de chez vous. Donc allez-y regarder cette carte, elle est très bien faite. Donc, je voudrais qu'on revienne sur ton travail à l'international, Benoît.
Alors, notre travail à l'international. Donc, tous les ans, il y a une conférence des États parties, parties au traité sur le commerce des armes, qui se réunit à Genève, en général fin août ou début septembre. Et cette fois-ci, nous y sommes allés à deux avec la vice-présidente, que vous avez déjà reçue ici sur les questions de violence policière, qui est Louise Sella, et moi-même. Et c'est l'occasion pour nous de mettre... devant l'international, le fonctionnement du gouvernement français. On fait toujours un discernement entre la France et le gouvernement français. La France qui ratifie et qui est engagée sur des traités internationaux concernant les droits de la personne humaine ou du droit international humanitaire, et un gouvernement qui respecte ou ne respecte pas les engagements de la France.
Mais
la France
ne respecte pas.
Ouais. Et dans ce cas-ci, ne respecte pas. Et nous, devant donc tous les délégués des États, qui sont un peu plus d'une centaine, hein, je crois qu'on est à 116 ratifications aujourd'hui, plus des États qui sont signataires, qui sont également présents, comme l'État d'Israël, eh bien, nous pouvons faire nos déclarations sur la manière dont le gouvernement français ne respecte pas le traité. Et En plus de cela, on intervient sur des interventions thématiques, hein, débat général sur la transparence, sur l'application du traité et sur l'universalisation du traité. Et sur l'universalisation du traité, c'est très intéressant parce que on arrive là à quelque chose, je dirais presque la fin d'un monde, la fin d'un monde occidental qui s'était cru centre du monde et maître du monde. Et maintenant, cette fin-là est déjà là depuis un moment, mais elle est de plus en plus visible. Et donc, on a montré avec Louise, par exemple, que cette idée de l'universalisation pour les pays occidentaux, c'est dépenser 2160, un peu plus de 2000 ou 2200, je dirais, dollars par personne en Ukraine pour faire la guerre et pour une résistance après l'invasion de Poutine, qu'elle est de 24 euros ou 24 dollars pour une personne au Soudan, et qu'elle est de 5 dollars pour une personne en Haïti. Est-ce que la valeur d'une personne en Haïti est plus importante que celle ou moins importante que celle d'une en Ukraine? Bien entendu, un représentant du gouvernement vous dira l'alarme à l'œil que bien sûr nous sommes tous égaux et que l'universalisation et que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que nous sommes tous égaux. Et dans les faits, bien entendu, vous voyez...
Il n'en est rien.
Voilà. Et c'est... Donc on a fait pas mal d'interventions dans ce sens-là, en disant que si vous voulez vraiment... parce que les droits de l'homme, en tant que tels... Alors je dis droits de l'homme, mais c'est avec un H majuscule, hein, c'est homme et femme. Et il y a là une universalisation, mais c'est l'application qui n'est absolument pas universelle. Et même quand je rencontre les délégués chinois, qui est comme la culture chinoise très, très engagée par rapport à Confucius, etc. Dans le livre 30 de Confucius, il est dit « Tu ne feras pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même ». Quand je les rencontre, je dis « Mais vous avez inventé les droits de l'homme ». Donc, ce qui les fait beaucoup rire, mais il y a cette universalisation de cette idée du respect de l'autre. Mais bien sûr, il y a une dichotomie absolument terrifiante quant à son application. Et c'est cette application que les gouvernements, notamment que les gouvernements des pays du Sud, contestent. Cette conférence des États parties nous permet de mettre ça à plat et de montrer cette espèce de cynisme. Je dis cynisme parce que, alors, il y a quelquefois un peu d'incompétence parce que ou de non-savoir parce que les représentants qui font quelquefois les déclarations pour leur gouvernement ne sont pas au courant de toutes les choses. Je vois par exemple avec la représentante de l'Australie, l'Australie qui a elle aussi continué à exporter des armes vers Israël, elle ne savait pas. Donc il y a des gens, quelquefois c'est vraiment le savoir. Mais de la part, en tout cas des représentants du gouvernement français, des représentants du gouvernement britannique, les États-Unis ne sont plus là, depuis Trump ils ne sont plus là, mais avant ils étaient là quand même en observateur, il y a un espèce de cynisme qui éclate aux yeux de tous les autres États. Et je dois dire que beaucoup de délégués sont venus ou... quand on les a rencontrés, nous ont dit à quel point ils avaient apprécié nos déclarations.
Bien. Donc ça, c'est votre travail à l'international.
Voilà.
Et tu as l'impression que ça fait avancer la conscience de...
Bah, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes dans un mouvement qui nous dépasse largement.
D'accord.
Mais ça veut dire que depuis le début de nos participations dans ces conférences des États et même dans lors des négociations, des discussions et des négociations, c'est le message qu'on a toujours fait passer, nous, à Zaire, quand j'étais à l'époque Amnesty International jusqu'en 2009, également quand je travaillais avec Brian Wood. Mais quand Amnesty a cessé de faire ce travail-là et a fait de la collecte de fonds à la place, hein, c'est un choix, eh bien, nous, on a créé AZER pour pouvoir continuer à porter ce discours-là. Parce que si on ne porte pas ce discours...
Les choses n'avancent pas.
Oui, et Et encore une fois, l'Occident ne représente que quoi, 10, maintenant je crois que c'est 8%, oui. 9% de la population mondiale.
8.
Voilà, donc arrêtons de nous raconter des histoires et puis faisons face à ce réel et ce besoin de l'autre, quel que soit l'autre. Voilà.
D'accord. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est génocide, et notamment le génocide à Gaza et ce qui se passe, les crimes contre l'humanité dans les territoires occupés, quelle a été ta perception à l'issue de cette conférence ?
Alors, la conférence des États, de l'Organisation islamique des États, je crois que c'est les Maldives qui ont fait la déclaration, et là, qui ont parlé de génocide très clairement, etc. Alors, à chaque fois avec des réactions très, très émotionnelles de la part des représentants d'Israël, comme vous pouvez imaginer. Moi, j'ai discuté un petit peu avec la représentante israélienne, et on se rend compte que c'est très très difficile parce que de leur côté il y a une peur panique de disparition, il y a quelque chose et c'est ça qui devrait nous interroger tous, c'est comment les êtres humains arrivent à concevoir, à accepter
l'irréparable,
la disparition de l'autre de cette manière-là, la déshumanisation de l'autre,
oui.
L'animalisation de l'autre, parce qu'il y a des actes qui sont de l'ordre de l'animalité. Alors il y a peut-être des défenseurs des animaux qui savent, même les animaux font pas ça, mais il y a quelque chose en tout cas de déshumanisation. Et bien sûr, pourquoi on travaille sur la question des armes ? Parce que on sait que si on arrête le flot des armes, eh bien, on diminue les niveaux de violence. Et quand on diminue les niveaux de violence, on commence à avoir des paroles qui s'ouvrent. Et on commence
dialoguer.
On commence à avoir du dialogue entre les gens. Et c'est ça le plus important, parce que c'est ça qui peut casser cette
dynamique.
Cette peur. Mais quand je disais peur-panique, oui, c'est une peur-panique de disparaître.
À ce point-là. Bien. Ben merci pour ce témoignage. Alors revenons aux mobilisations. Il y a un cargo de 18 tonnes.
Les 18 tonnes, c'était c'était les flux de canons.
Le cargo, il s'appelle Océan Gladiator.
Voilà.
À l'heure où nous sommes dans l'émission, il est du côté de Syracuse. Tu m'as expliqué.
Au sud de Syracuse, il est passé au sud de Syracuse. Alors c'est The Ditch. C'est un journal d'investigation, je crois, qui est irlandais, enfin anglo-saxon, et qui, là aussi, il y a des journalistes qui font un travail formidable et qui ont donc tracé ce cargo qui est parti, je crois, le 7 décembre des États-Unis et qui amène des tonnes de munitions pour l'armée israélienne. Et normalement, je pense que on parlait des mobilisations tout à l'heure. Elles sont ce cargo n'est pas passé ni en France ni en Italie, ni en Espagne ni en France ni en Italie. En Espagne, parce que le gouvernement espagnol s'est très clairement prononcé pour le refus de tout transfert d'armes vers Israël. La France, parce qu'il y a une mobilisation, et notamment à Fos, une véritable mobilisation des
documents de torture CGT. Ça, il faut remercier toutes les ONG qui y font partie, dont la tienne.
Et puis l'Italie, tu parlais tout à l'heure de notre communiqué de presse avec Weapon Watch,
oui.
Et notamment un grand ami, Carlo Tombola, qui est un très grand connaisseur, un très grand expert sur la question des armes légères et de petit calibre, mais des armes aussi en général. Et en Italie, ils font un travail aussi formidable avec les églises, avec la rete d'Italia pour empêcher le passage de ces